Route de l'Alhambra, la légende du soldat enchanté. Tout le monde a entendu parler de la grotte de Saint-Cyprien à Salamanque, dans laquelle autrefois un ancien sacristain, où, comme le croyaient certains, le diable lui-même, ainsi déguisé, enseignait en secret l'astrologie, la nécromancie, la chiromancie, ainsi que d'autres sombres et abominables arts. Il y a longtemps que la grotte est fermée et que son véritable emplacement est oublié. Cependant, selon la tradition, l'entrée se trouvait près de l'endroit où se dresse la croix en pierre de la petite place du séminaire de Carvajal, et cette croyance semble corroborée, d'une certaine manière, par les circonstances de l'histoire suivante. Il y avait à cette époque un étudiant de Salamanque, nommé Don Vicente, de cette espèce joyeuse et mendiante qui entreprend le chemin des études sans un penny en poche pour la route et qui, pendant les vacances de son collège, mendie de ville en ville et de village en village afin d'assembler les fonds qui lui permettront de poursuivre ses études l'année suivante. Il se préparait donc à commencer ses vagabondages et, comme il était quelque peu musicien, il jeta sur son dos une guitare avec laquelle il pourrait distraire les villageois et se payer un repas ou une nuit dans une auberge. Alors qu'il passait près de la croix en pierre sur la place du séminaire, il retira son chapeau et fit une courte prière à Saint-Cyprien pour qu'il lui porte chance. Lorsqu'il baissa les yeux vers le sol, il remarqua que quelque chose brillait au pied de la croix. Il le ramassa et vit qu'il s'agissait d'une chevalière, faite dans un alliage qui semblait d'or et d'argent fondu. Le motif de la chevalière représentait deux triangles croisés en forme d'étoiles. On dit que ce motif est un signe cabalistique d'une grande puissance pour tous les enchantements, et qu'il fut inventé par le sage roi Salomon. Mais l'honnête étudiant, n'étant ni sage ni sorcier, ne savait rien de tout cela. Il prit la bague et la considéra comme un présent de Saint-Cyprien en récompense de sa prière. La glissa à son doigt, fit une révérence à la croix et, grattant sa guitare, commença joyeusement son voyage. La vie d'un étudiant sans ressources en Espagne n'est pas des plus misérables au monde, surtout s'il a quelque talent pour se rendre agréable. Il erre de village en village, de ville en ville, partout où sa curiosité ou son caprice peuvent le mener. Les vicaires de campagne, qui, pour la plupart, furent en leur temps des étudiants sans ressources, lui offrent le gîte pour la nuit, ainsi qu'un repas confortable, et souvent, au matin, l'enrichissent de plusieurs quartos ou demi-pennies. Comme il se présente de porte en porte dans les rues des villes, il n'est jamais durement repoussé ni froidement méprisé, car il n'y a aucun déshonneur à cette mendicité, puisque parmi les hommes les plus cultivés d'Espagne, beaucoup ont commencé leur carrière de cette manière. Et si, comme c'était le cas de notre étudiant, il s'agit d'un gaillard de belle allure et d'un joyeux compagnon, et si, surtout, il sait jouer de la guitare, il est assuré de recevoir un accueil cordial de la part des paysans et des sourires et des faveurs de la part de leurs femmes et de leurs filles. Ainsi, notre loqueteux et musical fils de la science parcourut-il la moitié du royaume avec la ferme intention de visiter la célèbre ville de Grenade avant son retour. Parfois, Il s'unissait pour la nuit aux ouailles d'un pasteur de village. D'autres fois, il trouvait un abri sous l'humble mais hospitalier toit d'un paysan. Assise à la porte de la chaumière avec sa guitare, il faisait les délices des bonnes gens avec ses chansonnettes. Ou, se mettant à jouer un fandango ou un boléro, il faisait danser dans le gai crépuscule les garçons et les filles du pays au brun visage. Au matin, il prenait la route, accompagné d'aimables paroles de ses hôtes et hôtesses, ainsi que de doux regards, et, peut-être, d'un serrement de main de la fille. Il arriva finalement au grand objectif de son vagabondage musical, la célèbre ville de Grenade, et salua, plein d'émerveillement et de plaisir, ses tours maures, sa délicieuse Vega et ses montagnes enneigées qui scintillaient dans l'atmosphère estivale. Il est inutile de préciser que c'est avec une curiosité impatiente qu'il passa les portes de la ville, se promena dans ses rues et observa ses monuments orientaux. Chaque visage féminin qui se montrait à une fenêtre ou resplendissait du haut d'un balcon était pour lui une Zoraïde ou une Zélande, et il ne pouvait croiser une élégante dame sur l'Alameda sans se mettre à imaginer en elle une princesse maure et à étendre sa cape d'étudiant sur son passage. Son talent musical, sa joyeuse humeur, sa jeunesse et sa belle allure lui valurent partout un bon accueil, bien que ses vêtements fussent déchirés. Et pendant plusieurs jours, il mena la belle vie dans la vieille capitale maure et ses environs. Un de ses repères occasionnels était la fontaine d'Avellanos, dans la vallée du Darro. Il s'agit d'un des lieux de villégiature populaire de Grenade, depuis l'époque des Maures. Et là, l'étudiant eut l'opportunité de poursuivre ses études sur la beauté féminine, matière pour laquelle il avait quelque inclination. Il s'installait là avec sa guitare, improvisait des rengaines d'amour pour des groupes admiratifs de Marros et de Marras, ou invitait avec sa musique à une danse toujours bien accueillie. Il était ainsi occupé un soir lorsqu'il vit s'approcher un padre de l'église devant lequel tout le monde se découvrait. C'était de toute évidence un homme important. Robuste et le visage rouge, respirant par tous les pores à cause de la chaleur et de l'exercice de sa marche, il s'agissait assurément, sinon d'un saint, d'un homme de bien. Lorsqu'il passait là, il avait l'habitude, parfois, de sortir un maravedi de sa poche et de le donner à un mendiant, avec un air de grande bienveillance. « Ah, quel saint père ! » s'exclamait-on. « Que Dieu lui accorde une longue vie, et puisse-t-il être bientôt évêque ?» Pour l'aider dans son ascension de la colline, il s'appuyait parfois au bras d'une servante, de toute évidence une brebis de ce bon berger. Ah, quelle damoiselle, andalouse de la tête aux pieds, depuis la rose dans ses cheveux jusqu'à la chaussure de fée et au bas de dentelle. Mais si chaste, si timide, toujours les yeux baissés, écoutant les paroles du padre. Et si parfois elle glissait un regard de côté, elle le réprimait bien vite et ses yeux de nouveau se rivaient au sol. Le bon padre regarda affectueusement la compagnie réunie autour de la fontaine et s'assit sur un banc de pierre en se donnant un certain air d'importance, tandis que la servante s'empressa de lui apporter un verre d'eau claire. Il le but posément, à petites gorgées et avec délectation, tout en l'accompagnant d'une de ces spongieuses confiteries faites de glacés et de sucre qui sont si chères aux épicuriens espagnols. Et, quand il remit le verre dans la main de la damoiselle, il lui pinça la joue d'un air d'amour et de bonté infinie. « Ah, le bon berger !» murmura l'étudiant en lui-même. « Quel bonheur ce doit être d'être réuni dans son troupeau avec une brebis comme celle-ci pour compagne !» Mais il était peu probable qu'une telle chance retombe sur lui. En vain, il essaya de ses aptitudes à charmer qui l'avaient rendu si irrésistible auprès des curés de village et des jeunes filles de la campagne. Jamais il ne joua de sa guitare avec autant de dextérité. Jamais il ne chanta de ballades plus émouvantes. Mais il n'avait plus affaire à un curé de village ni à une jeune fille de la campagne. Le digne prêtre n'aimait visiblement pas la musique, et la chaste demoiselle ne quitta pas le sol des yeux. Ils restèrent peu de temps à la fontaine, et le bon padre hâta leur retour à Grenade. La demoiselle jeta en partant un timide regard à l'étudiant, mais ce regard lui arracha le cœur de la poitrine. Lorsqu'ils furent repartis, il prit des renseignements à leur sujet. Padre Thomas était un des saints de Grenade, un modèle de régularité. Ponctuel à l'heure de se lever, à l'heure de faire son paseo pour se mettre en appétit, à l'heure de déjeuner, à l'heure de faire sa sieste, à l'heure de sa partie de tressillo, l'après-midi, avec quelques dames du cercle de la cathédrale, à l'heure de souper et à l'heure de se retirer pour se reposer, afin de reprendre des forces pour une nouvelle journée d'occupation similaire. Il avait une mule paisible et au poil brillant pour ses déplacements, une imposante gouvernante experte dans la préparation de friandises pour sa table et la brebis pour lisser son oreiller le soir et lui apporter son chocolat le matin. Adieu donc à la vie gaie et insouciante de l'étudiant. Le furtif regard de côté lancé par un œil brillant avait causé sa perte. Le jour comme la nuit, il ne pouvait chasser de son esprit l'image de la plus chaste des damoiselles. Il chercha la résidence du padre. Hélas, c'était une maison inaccessible pour un étudiant vagabond comme lui. Le digne padre n'avait aucune sympathie pour lui. Il n'avait jamais été un estudiante sopista, forcé de chanter pour gagner son souper. L'étudiant fit le siège de la maison pendant la journée, épiant quelques regards furtifs de la damoiselle lorsqu'elle apparaissait à la croisée. Mais ses regards ne faisaient qu'aviver sa flamme sans encourager ses espoirs. Il chanta la sérénade sous son balcon pendant la nuit et, une fois, fut flatté par l'apparition de quelque chose de blanc à une fenêtre. Hélas, ce n'était que le bonnet de nuit du padre. Jamais il n'y eut d'amoureux plus dévoué, ni de damoiselle plus réservée. Le pauvre étudiant était réduit au désespoir. Arriva finalement la veille de la Saint-Jean, quand les petites gens de Grenade se rassemblent dans la campagne, dansent tout l'après-midi et passent la nuit sur les rives du Darro et du Xénil. Heureux sont ceux qui, pendant cette nuit mémorable, se trouvent en train de laver leur visage dans les eaux de ces rivières, lorsque les cloches de la cathédrale sonnent les 12 coups de minuit. Car à ce moment précis, ces eaux ont le pouvoir d'embellir. L'étudiant, n'ayant rien à faire, se laissa entraîner par la foule qui partait se divertir et se retrouva dans l'étroite vallée du Darro, au pied de la haute colline et des tours rougeoyantes de l'Alhambra. Le lit asséché de la rivière, les rochers qui le bordaient, les jardins en terrasse qui le surplombent, étaient animés par des groupes variés qui dansait autour des vignes et des figuiers au son de la guitare et des castagnettes. L'étudiant resta un moment plongé dans une attitude triste, appuyé à une des énormes et difformes grenades de pierre qui ornent les extrémités du petit pont sur le Darro. Il posa un regard mélancolique sur la scène joyeuse, où chaque cavalier avait sa dame, ou plutôt chacun sa chacune. Il soupira sur sa condition solitaire, de victime de l'œil noir de la plus inaccessible des damoiselles, et se lamenta sur sa tenue en loques qui semblait lui fermer les portes de l'espérance. Son attention fut peu à peu attirée par un voisin aussi solitaire que lui. C'était un grand soldat, à l'aspect sévère et à la barbe grisonnante, qui semblait posté en sentinelle devant la grenade d'en face. Son visage était tanné par le temps. Il était paré d'une ancienne armure espagnole, d'un bouclier et d'une lance, et était aussi immobile qu'une statue. Ce qui surprit l'étudiant fut que, malgré un équipement si surprenant, il passait totalement inaperçu aux yeux de la foule qui défilait devant lui, bien que de nombreuses personnes le frôlaient presque. Cette vieille cité regorge de bizarreries des anciens temps, pensa l'étudiant, et sans doute en voici une à laquelle les habitants sont trop habitués pour s'en étonner. Sa propre curiosité, cependant, était éveillée, et, étant d'une nature sociable, il accosta le soldat. « Vous portez une bien étrange et ancienne armure, l'ami. Puis-je vous demander à quel corps vous appartenez ?» Le soldat répondit d'une voix entrecoupée, sortant d'une paire de mâchoires qui semblait oxydée sur ses gonds.
« La garde royale de Ferdinand et Isabelle !»«
Santa Maria, voyons, ce corps existait il y a 3 siècles.
Et cela fait 3 siècles que je monte la garde. Maintenant, j'ai l'espoir que mon tour de garde touche à sa fin. Désires-tu la fortune ?»
L'étudiant souleva son manteau en lambeaux pour toute réponse.
« Je te comprends. Si tu as de la foi et du courage, suis-moi, et ta fortune est faite. »
« Doucement, l'ami, peu de courage est nécessaire pour te suivre, à qui n'a rien à perdre que la vie et une vieille guitare, toutes deux de peu de valeur. Mais quant à ma foi, c'est une autre histoire, et je ne souhaite pas l'induire en tentation. Si c'est par un acte criminel que je dois améliorer mon sort, ne va pas croire que mon manteau déchiré me décidera à le commettre. » Le soldat jeta sur lui un regard de grand mécontentement.
« Mon épée, dit-il, n'a jamais été sortie que pour la cause de la foi et du trône. Je suis un cristiano viejo. Fais-moi confiance et ne crains rien de mal. »
Le soldat le suivit émerveillé. Il remarqua que personne n'avait fait attention à leur conversation et que le soldat frayait son chemin à travers les groupes d'oisifs, inaperçu, comme s'il était invisible. Après avoir traversé le pont, le soldat le mena par un chemin étroit et escarpé, après un moulin et un aqueduc mort, puis en remontant un ravin qui sépare les domaines du Generalife de ceux de l'Alhambra. Le dernier rayon de soleil brilla au-dessus des rouges remparts de ce palais que l'on apercevait tout en haut, et les cloches du couvent proclamaient les festivités du jour suivant. Le ravin était obscurci par des figuiers, des vignes et des myrtes, ainsi que par les tours extérieures et les murs de la forteresse. Il était sombre et solitaire, et les chauves-souris éprises du crépuscule commençaient à voleter tout autour. Finalement, Le soldat fit halte devant une tour isolée et en ruine, apparemment destinée à la surveillance d'un aqueduc mort. Il en frappa la base du bout de sa lance. Un grondement se fit entendre et les lourdes pierres s'entrebâillèrent, dégageant une ouverture aussi large qu'une porte.
« Entre, au nom de la Sainte Trinité !» dit le soldat. « Et ne crains rien !»
Le cœur de l'étudiant se serra, mais il fit le signe de la croix, murmura son Ave Maria et suivit son mystérieux guide jusqu'à une voûte profonde creusée sous la tour dans la roche massive et qui était couverte d'inscriptions arabes. Le soldat désigna un siège de pierre taillé sur l'un des côtés de la voûte.
« Vois, dit-il, ceci est ma couche depuis 300 ans. »
L'étudiant abasourdi tenta un trait d'esprit.
« Par Saint-Antoine béni, dit-il, votre sommeil a dû être bien lourd, si j'en juge par la dureté de votre couche. »
« Au contraire, le sommeil a été étranger à ses yeux. Une incessante vigilance a été mon destin. Écoute mon histoire. J'étais un des gardes royaux de Ferdinand et d'Isabelle. Mais je fus fait prisonnier par les Maures lors d'une de leurs sorties et fus enfermé dans cette tour. Alors que se préparait la reddition de la forteresse au souverain chrétien, un alfaki, un prêtre mort, me persuada de l'aider à cacher dans cette voûte quelques-uns des trésors de Boabdil. Je fus justement puni pour ma faute. L'alfaki était un nécromancier africain, et à l'aide de ses pouvoirs infernaux, il me jeta un sort pour que je garde ses trésors. Quelque chose a dû lui arriver, car il ne revint jamais, et je suis toujours resté ici depuis, enterré vivant. Des années se sont écoulées, des tremblements de terre ont secoué cette colline. J'ai entendu tomber l'une après l'autre les pierres de la tour au-dessus, du fait de l'œuvre naturelle du temps. Mais les murs enchantés de cette voûte défièrent à la fois le temps et les tremblements de terre. Tous les 100 ans, pour les festivités de la Saint-Jean, l'emprise de l'enchantement cesse, et j'ai le droit de sortir et de me poster sur le pont du Darro, là où tu m'as trouvé, et d'attendre jusqu'à ce qu'arrive quelqu'un qui aurait le pouvoir de briser le charme magique. J'ai jusqu'à présent monté la garde en vain. Je marche comme dans un nuage, invisible au regard des mortels. Tu es le premier à m'accoster depuis 300 ans. J'en sais la raison. Je vois à ton doigt la chevalière du sage roi Salomon, talisman puissant contre toutes sortes d'enchantements. C'est toi qui a le pouvoir de me délivrer ou de me laisser monter la garde ici durant 100 autres années. »
L'étudiant écouta ce récit dans un muet étonnement. Il avait entendu de nombreux récits de trésors protégés par de puissants sortilèges dans les voûtes de l'Alhambra. Mais il avait cru que ce n'était que des fables. Il comprenait maintenant la valeur de la chevalière qui, d'une certaine manière, lui avait été donnée par saint Cyprien. Malgré tout, bien qu'armé d'un si puissant talisman, il était terrible de se retrouver tête à tête dans un tel endroit avec un soldat ensorcelé qui, selon les lois de la nature, aurait dû être en train de reposer tranquillement dans sa tombe depuis près de 3 siècles. Un personnage de cette sorte, cependant, se trouve en dehors de l'ordre naturel des choses et ne pouvait être traité à la légère. Il lui assura qu'il pouvait compter sur son amitié et sa bonne volonté pour faire tout ce qui était en son pouvoir pour le délivrer.
« Je crois en un motif plus puissant que ton amitié, » dit le soldat.
Il désigna un lourd coffre de fer, verrouillé par des serrures couvertes d'inscriptions arabes.
« Ce coffre, » dit-il, « contient un incalculable trésor en or et joyaux et pierres précieuses. Brise l'enchantement magique duquel je suis prisonnier, et la moitié de ce trésor sera à toi.
Mais comment dois-je faire ?
L'aide d'un prêtre chrétien et d'une jeune fille chrétienne est nécessaire. Le prêtre pour exorciser le pouvoir des ténèbres. La damoiselle pour toucher ce coffre avec le sceau de Salomon. Ceci doit être fait pendant la nuit. Mais fais attention, il s'agit d'une entreprise solennelle qui ne doit pas être effectuée par une âme vaine. Le prêtre doit être un cristiano viejo, un modèle de sainteté. Il doit mortifier sa chair avant de venir ici par un jeûne de 24 heures. Et quant à la jeune fille, elle doit être irréprochable et à l'abri de la tentation. Ne traîne pas à trouver une telle aide. Dans 3 jours, mon congé touchera à sa fin. Et je devrai monter la garde pendant un nouveau siècle.
« Ne t'inquiète pas, » dit l'étudiant, « j'ai précisément à l'esprit le prêtre et la damoiselle que tu as décrit. Mais comment pourrais-je entrer de nouveau dans la tour ?»«
Le sceau de Salomon l'ouvrira pour toi. »
L'étudiant sortit de la tour bien plus gaiement qu'il n'y était entré. Le mur se referma derrière lui et redevint aussi massif qu'avant. Le lendemain matin, il se dirigea fièrement vers la maison du prêtre. Non plus comme un pauvre étudiant vagabond qui erre en grattant les cordes de sa guitare, mais en tant qu'ambassadeur du monde des ombres qui a des trésors à accorder. On ignore ce qui fut dit lors des négociations. Sinon que le zèle du digne prêtre fut aisément conquis à l'idée de sauver un vieux soldat de la foi et un coffre du roi Chico des griffes de Satan. Combien d'aumônes pourraient être distribuées, combien d'églises construites et combien de parents pauvres s'enrichiraient grâce au trésor des morts. Quant à l'immaculée jeune fille, elle était disposée à prêter sa main. C'était tout ce qu'on lui demandait à cette pieuse entreprise. Et, à en croire un timide regard de ci, de là, l'ambassadeur commença à trouver grâce à ses chastes yeux. La plus grande difficulté, cependant, était le jeûne auquel le bon padre devait se soumettre. 2 fois il essaya, et 2 fois la mortification fut trop dure pour son esprit. Ce fut seulement le 3e jour qu'il fut capable de résister aux tentations de la table. Mais restait à savoir s'il tiendrait jusqu'à ce que le sortilège fût rompu. À 1 heure avancée de la nuit, le groupe chercha son chemin à tâtons dans le ravin, à la lueur d'une lanterne et en portant un panier de provisions afin d'exorciser le démon de la faim dès que les autres démons gésiraient dans la mer rouge. Le sceau de Salomon leur ouvrit l'accès à la tour. Ils trouvèrent le soldat assis sur le coffre ensorcelé, attendant leur arrivée. L'exorcisme fut effectué en bonne et due forme. La damoiselle s'approcha et toucha les serrures du coffre avec le sceau de Salomon. Le couvercle sauta, et quel trésor d'or et de joyaux et de pierres précieuses resplendirent à leurs yeux. « Voici, partageons et partons !» cria l'étudiant exultant, tandis qu'il procédait à se remplir les poches.
« Équitablement et doucement !» s'exclama le soldat. « Sortons le coffre entier, et ensuite nous partagerons !»
Par conséquent, Ils se mirent à l'ouvrage de toutes leurs forces, mais c'était une tâche difficile. Le coffre était extrêmement lourd, et il était resté fixé là pendant des siècles. Alors qu'ils étaient ainsi occupés, le bon pasteur se retira d'un côté et fit un vigoureux assaut au panier afin d'exorciser le démon de la faim qui faisait rage dans ses entrailles. En un moment, un gras chapon fut dévoré et arrosé d'un grand trait de Valdepeñas. Et, sur le chemin de la grâce après la viande, il donna un baiser plein de bonté à la brebis qui l'attendait. Ce fut fait sans bruit dans un coin, mais les mûrs témoins se mirent à en bavarder comme en triomphe. Jamais un chaste salut n'eut de plus terribles effets. Au bruit, le soldat poussa un grand cri de désespoir. Le coffre, qui était à moitié soulevé, retomba à sa place et fut de nouveau verrouillé. Le prêtre, l'étudiant et la damoiselle se retrouvèrent hors de la tour, dont le mur se referma en un débranlement tonnant. Hélas, le bon padre avait rompu son jeûne trop tôt. Quand il se remit de sa surprise, l'étudiant voulut retourner dans la tour, mais il s'aperçut avec consternation que la damoiselle, dans son effroi, avait laissé tomber le sceau de Salomon. Il était resté à l'intérieur de la voûte. En fin de compte, la cloche de la cathédrale sonna minuit. Le charme fut renouvelé. Le soldat était condamné à monter la garde pendant 100 ans de plus. Et c'est là que lui et le trésor se trouvent encore à ce jour, et tout cela parce que le bon padre avait donné un baiser à sa servante. « Oh, père, père !» disait l'étudiant, secouant piteusement la tête, tandis qu'il redescendait le ravin. « Je crains que ce fût moins le saint homme que le pécheur qui donna ce baiser. » Ainsi s'achève la légende, d'après ce qu'il a été possible de vérifier. Il existe une tradition, cependant, selon laquelle l'étudiant avait emporté suffisamment de trésors dans ses poches pour s'installer dans le monde. Que ses affaires avaient prospéré, que le digne padre lui avait donné sa brebis en mariage, en guise de dédommagement pour sa bévue dans la voûte. Que l'immaculée damoiselle s'affirma être une épouse modèle, autant qu'elle avait été une servante modèle. L'histoire du soldat enchanté est toujours une tradition populaire de Grenade, bien qu'elle soit racontée d'une multitude de façons. Le peuple affirme qu'il monte toujours la garde pendant la nuit de la Saint-Jean, auprès de la gigantesque grenade de pierre, sur le pont du Darro, mais qu'il demeure invisible, excepté pour l'heureux mortel qui posséderait le sceau de Salomon.